Le grand rendez-vous de l'épargne, une émission présentée par Capital et Radio Patrimoine.
Bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Vous le savez, c'est votre émission qui aborde tous les sujets qui touchent à votre argent, que ce soit pour votre épargne, pour votre succession, pour vos impôts, pour préparer vos retraites, pour vos investissements immobiliers. Par exemple, chaque mois, dans le Grand Témoin, on vous donne tous les conseils pour gérer au mieux votre patrimoine et votre argent à l'aide des meilleurs experts invités sur le plateau. Et comme chaque mois, je suis avec Thibault Lamy, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, je vous remercie.
Chef de service pour le magazine Capital, tout à l'heure il y aura Ça vous concerne, hein, vous le savez, c'est votre séquence où nos experts répondent à vos questions. Il y aura aussi le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, le président fondateur du cabinet PrimeView et le président de l'OREP. Mais tout de suite, c'est le grand témoin et on va parler de l'or, l'or qui bat tous les records. Donc jusqu'où peut aller ces records, jusqu'où peut-il aller et comment en profiter? Il faut savoir qu'il y a eu un record historique le 8 mars dernier à environ 2195 $, donc c'est plus de 2000 €. Jamais le cours de l'once d'or n'a été aussi élevé. Donc après une faste pour ce métal jaune, son prix a continué de grimper en ce début d'année. Mais pourquoi le cours de l'or s'envole-t-il justement? On va s'intéresser à ça, la relique barbare, comme vous aimez l'appeler, Thibault. Les décisions monétaires des banques centrales qu'on attend justement d'ici juin, vont-elles encore booster le prix de ce métaux et des métaux en tout cas? Jusqu'où peut-il grimper dans les prochains mois et puis dans les années à venir aussi et surtout, est-ce que c'est encore intéressant d'investir puisque ça a augmenté, donc est-ce que c'est toujours le moment d'investir? C'est ce qu'on va voir avec nos invités, Thibault.
Oui, il y a beaucoup de questions et pour nous aider à y répondre, deux invités dans le grand rendez-vous de l'épargne. Tout d'abord, Philippe Creux, donc économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Jean-François Faure, fondateur et président du groupe Aucoffre.com.
Bonjour.
Eh bien, le grand rendez-vous de l'épargne sur l'or, c'est maintenant.
Le grand témoin.
Et on va peut-être commencer avec un retour, un bilan de l'année 2023, Thibault, avec le record dont on a parlé.
Oui, donc un record en début d'année 2024, mais déjà une très bonne année en 2023, alors que les planètes ne semblaient pas forcément alignées pour le cours de l'or, avec des taux d'intérêt encore très élevés. Philippe Creuvel, comment on explique cette très bonne année pour l'or qui a bien grimpé vraiment en 2023?
En 2023, ça vient après 2022. 2022, guerre en Ukraine, incertitude liée au retour des problèmes géopolitiques. 2023, c'est également, malheureusement, donc les attentats en Israël et des tensions fortes sur le Proche et le Moyen-Orient. Donc tout ceci, évidemment, concourt à l'augmentation du prix de l'or. C'est traditionnel, c'est classique. Ça avait été le cas lors du second choc pétrolier de 1979, où l'or avait également battu des records. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, les banques centrales. Les banques centrales sont acheteuses d'or, et en particulier celles des pays émergents et en développement. La Chine, qui veut avoir son stock d'or, en partie pour se dédollariser. Également la Russie, qui évidemment n'échange plus en dollars et qui utilise en tant que réserve l'or et donc en achète, surtout que la Russie a d'importants excédents commerciaux. Et c'est le cas également des pays du Proche et du Moyen-Orient, parce que le pétrole a augmenté. Donc leurs recettes ont progressé et avec ces recettes, ils investissent en Europe, aux États-Unis, mais ils achètent également un petit peu d'or. Donc cela a concouru à l'augmentation du cours de l'or. Et puis, j'ai parlé d'incertitude, il y a également l'inflation. En période d'inflation, l'or a tendance à augmenter. C'est une valeur refuge traditionnelle des périodes de tension et de périodes inflationnistes. Et c'est pour ça qu'en 2023, malgré des taux d'intérêt élevés, l'or a battu des records importants.
Jean-François Faure, Philippe Creuvel en parlait à l'instant de l'inflation. L'inflation, elle a commencé à baisser quand même en France et un peu partout. Pourtant, l'or, lui, là, il n'en a pas pâti. Comment vous l'expliquez ça?
Non, mais de toute manière, sur la relation entre l'or et l'inflation, déjà, il faut qu'on remonte même un petit peu plus en avant. C'était juste à la sortie du Covid. C'est d'abord, les choses ont commencé avec l'inflation post-Covid. Évidemment, ensuite accentué par tout ce qu'on a connu avec les conflits armés, les attentats, etc. Donc voilà, on avait ce contexte qui partait déjà d'un or qui était quand même à des niveaux quand même déjà assez élevés, quoi. Même en 2019, on avait des niveaux qui étaient élevés pour d'autres raisons, plus géopolitique, les USA, la Chine, etc. Mais voilà, on était quand même sur quelque chose qui était assez élevé. Et depuis cette époque, donc depuis 2019, on peut pas dire qu'on ait eu un moment de tranquillité, quoi. Entre les virus, entre les gens qui veulent s'entretuer, etc. Enfin, globalement, il n'y a pas eu de répit. Donc finalement, l'or a toujours été globalement assez porté par tous ces événements. Juste, je dirais, avant les attentats du 7 octobre, c'était globalement plutôt dans une forme de stabilité, parce qu'on avait un fight entre, d'un côté, l'inflation qui était à ce moment-là encore assez élevée, et d'un autre côté, des taux qu'on n'annonçait pas immédiatement devoir baisser. Donc on avait une forme de statu quo qui faisait que l'or était assez dans une forme d'entretien. Entre deux. Et alors après, on pourrait aussi jouer sur la force des devises les unes par rapport aux autres, en fonction du jour où le dollar est un peu plus fort ou un peu moins. Ça aussi, ça influe quand même fortement sur l'or. C'est pour ça que voilà, depuis pas mal de temps, on est sur des zones finalement assez élevées. Sans parler après des relations aussi un peu autoréalisatrices, c'est-à-dire que quand vous êtes sur des marchés financiers, et l'or est aussi un actif financier, et ce n'est pas que du bijou, c'est pas qu'un actif industriel, c'est aussi un actif financier. Et là, il est aussi tenu par le marché lui-même, c'est-à-dire que quand vous êtes sur des zones de support ou quand vous êtes juste en dessous d'une résistance, donc voilà, il y a des choses qui se créent, qui vont être un petit peu autoréalisatrices. Et là, d'ailleurs, c'est typiquement ce qu'on a connu ces derniers jours avec les records, où on était sur une forme de vase qui était prêt à déborder. Et il a suffi d'une goutte, c'est-à-dire l'annonce d'un banquier central pour que, enfin d'une annonce qui n'était même pas totalement une annonce, hein, c'est une demi-annonce ou une annonce en creux, pour que en bout de course, voilà, le vase déborde, où on tue le boss et on passe au niveau 10. Quoi. C'est un peu ce qui s'est passé.
Donc là, vous avez un petit peu basculé en 2024. On va basculer avec vous sur ce record qui date du 8 mars. À quoi c'est dû exactement ce record? Vous venez de commencer à l'évoquer. Il y a aussi certains spécialistes du secteur qui parlent aussi de l'anticipation de la baisse à venir des taux des banques centrales. C'est quoi? C'est une conjonction de facteurs qui a poussé l'or à ce record?
Alors, selon moi, c'est effectivement d'abord ces demi-annonces qui étaient globalement attendues, donc le fait qu'elles soient évoquées en creux est suffisant pour convaincre les gens que les choses vont se passer comme ça, alors que personne n'a rien vraiment promis. Mais c'était tellement attendu que même si on ne le dit pas, on le croit. Alors voilà, donc ça c'est un élément déclencheur pour lancer une hausse. Mais quand cette hausse se produit à quelques encablures d'un record, eh bien il se passe quoi? C'est l'exemple que je donnais juste avant, c'est vous êtes au niveau 9, vous venez de tuer le boss et vous passez au niveau 10. Voilà. Donc là, on en est là, on a franchi une résistance technique. Donc en dollars, on va dire qu'on était vers les 2100, en euros, c'était 1950 et des poussières. Ça s'est passé et ensuite on évolue dans un autre niveau. Ce qui fait que ça n'empêche pas que maintenant on va pouvoir redescendre, consolider, et tant mieux, c'est ce qu'on espère. Mais maintenant, il n'y a plus de frein psychologique à se dire qu'on puisse évoluer au-dessus des 2100 dollars, au-dessus des 2000 euros. Voilà, donc une demi-annonce a créé un véritable effet, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant et qu'on a évoquées avant sur l'inflation, les conflits, etc., qui avaient laissé l'or à un niveau déjà très haut, on a passé ce cap. Après, on peut en reparler après, mais c'est un record qui n'en est peut-être pas tout à fait un, parce que si on remet en phase avec l'inflation d'autres époques, on n'a toujours pas dépassé le record du début des années 80, ou remis par rapport à l'inflation, on serait plutôt aux alentours des 2500 dollars, si on parle en dollars.
On évoque souvent l'or, hein, historiquement, comme une valeur refuge. Ça peut être notamment le cas quand les marchés financiers se cassent la figure. C'est, ce qui peut sembler un petit peu étonnant pour un profane, c'est la courbe, par exemple, si on prend un indice qu'on connaît bien, le CAC 40, qui lui aussi bat ses records, et l'or qui bat ses records en même temps. Est-ce que ce n'est pas un peu contre-intuitif, Philippe ?
Le marché financier aujourd'hui est en fait dans une situation particulière. Il y a beaucoup de liquidités. Les liquidités, elles ont été créées par plus de 7 ans de politique monétaire accommodante. La masse monétaire a été multipliée par 5 ou 6 entre 2014 et 2022. Et donc, il y a énormément de liquidités. D'autant plus que l'augmentation des prix de l'énergie, du pétrole, du gaz, a débouché sur des excédents commerciaux faramineux pour les pays du Golfe et qui replace cet argent. Donc beaucoup de liquidités créées en Europe, aux États-Unis, avec la politique monétaire dite accommodante, des excédents commerciaux faramineux dans certains pays producteurs de pétrole et de gaz. Donc cela concourt évidemment à une augmentation de la valeur des actifs. C'est le cas pour les actions, on bat des records sur le CAC 40, mais également sur la plupart des indices occidentaux. On bat des records sur les cryptos et on bat des records sur l'or. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où les investisseurs cherchent à placer au mieux leur liquidité et à diversifier leurs risques, d'où le placement en partie en or, ce qui favorise les cours. Mmh.
Jean-François, vous êtes d'accord avec
ça ? Là, je ne peux que confirmer, puisque même à la fois les humains, même les robots de trading sont programmés aujourd'hui pour effectivement se positionner sur les actifs dans des logiques de diversification, comme on l'expliquait, mais aussi dans des logiques de protection, parce que tout le monde se dit, c'est peut-être la veille d'un crack, de quoi que ce soit. Peut-être ça se produira dans 5 ans, mais... Voilà, il y a des tensions qui montent et tout le monde sait, y compris des systèmes automatiques qui aujourd'hui représentent 90% des transactions, qu'il faut se prémunir et l'or est là pour ça. Et ça, on l'a vu les fois précédentes. Et je reprends notamment l'exemple du Covid. En période mars-avril 2020, et notamment, c'était plutôt en avril, lors du crack, où les marchés ont chuté d'environ 30-40%. Ce qui a été assez intéressant de noter à ce moment-là, c'est que pendant à peu près une quinzaine de jours, l'or a baissé lui aussi. Mais là, c'est juste pour partager un petit peu quelques tips là-dessus. C'est que c'est assez systématique. Chaque fois que les marchés s'effondrent, l'or lui aussi baisse strictement au même moment. Tout simplement parce que à ce moment-là, tout le monde dénoue ses positions. Et ceux typiquement qui avaient au même moment qu'ils avaient telle action qui a pris 30 ou 40% à la baisse, ils dénouent avec de l'or qui lui en avait peut-être pris 30 ou 40 ou plus ou un peu moins les périodes d'avant. Les deux lignes se consolident et face à un client qu'on a en face, puisque quand on est un gérant, on a probablement un client qui attendait peut-être de la rentabilité, on arrive peut-être même dans un marché ultra baissier à lui présenter quelque chose de pas trop moche. Et ceci notamment grâce à l'or. C'est pour ça que dans ces périodes, on a des fortes baisses qui, quelques jours après, repartent à la hausse. Donc voilà, si malheureusement on avait à vivre un crack dans les quelques semaines, mois ou années qui suivent, il serait à ce moment-là intéressant d'observer ce phénomène. Mmh.
Mais on reste plutôt sur l'interprétation. Pour le moment, l'or reste bel et bien une valeur refuge, on est d'accord.
Typiquement, c'est comme ça qu'il est utilisé. C'est pour ça qu'on se positionne de cette manière. Et c'est pour ça qu'en période de crack, justement, on le vend, parce qu'à ce moment-là, on s'en sert de valeur refuge pour éponger les pertes par ailleurs.
Mmh. On va peut-être sortir la boule de cristal maintenant.
Oui, pour 2024.
Vous allez nous dire... Là, maintenant, le cours de l'or à la fin de l'année 2024. Jean-François.
Avec la décision des banques centrales. Hein, comme on...
Avec la décision des banques centrales. Bon, alors, moi, sur le coup, je lis pas de boule de cristal, mais avec nos clients chez Ocoffre, on aime bien se poser des questions. Et nous, on leur pose des questions. Est-ce que 2024 est une année où tout le monde va se faire des bisous, on va se réconcilier, drapeau blanc, etc. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. La réponse est globalement...
Il y a mal parti.
Non.
Voilà. Il y a les Jeux Olympiques quand même.
On va se faire les bisous, sauf s'il y a quelques grèves, quelques problèmes dans les transports, quelques blocages devant les stades. Non, mais après, de toute façon, ça n'est que la France, et globalement, la France n'a quasiment aucun impact sur le cours de l'or, sauf s'il y avait un événement funeste qui rasait Paris, quoi. Mais enfin, vraiment, il faudra en arriver là pour qu'il se passe quelque chose sur l'or du fait de la France, qui n'a peu d'impact. Bon, il y a ça. Ensuite, l'inflation, elle continue effectivement dans un sens baissier. Si tant est que ça soit rattrapé par la vie qui nous entoure, quoi. Donc bon, voilà. Mais l'inflation, finalement, elle est globalement peut-être avec un moindre impact que ce que l'on pourrait voir sur les taux d'intérêt. Et donc là, les taux d'intérêt, on s'attend effectivement à ce qu'ils puissent baisser. Donc voilà, dans les questions qu'on se pose, est-ce que l'inflation qui baisse et qui, elle, est plutôt tendance à faire baisser aussi l'or, aura un impact supérieur à celui des taux d'intérêt qui, eux, pourraient être baissiers ? Ça va être la vraie question. Moi aussi, mon interrogation, c'est sur le dollar. Quelle va être la force du dollar en 2024 ? Un dollar fort est évidemment un dollar qui aurait tendance à ce moment-là à amoindrir la valeur de l'or, parce qu'il pourrait être considéré comme une valeur refuge. Moi, à titre personnel, une monnaie dette qui ne cesse de perdre de la valeur depuis les années 70, est-ce que c'est une valeur refuge ? À choisir entre des devises, je préférerais presque aller vers le franc suisse, quoi. Qui d'ailleurs lui aussi a battu son record en or, et là c'était pour moi un véritable record intéressant à observer. Voilà, donc plutôt des questions, parce qu'avec l'or, on n'est jamais à l'abri d'un black swan. Enfin, en tout cas, lui n'est jamais à l'abri de devoir réagir à un black swan. Donc l'or, moi, je le vois un petit peu comme ce paysan guerrier qui la plupart du temps reste tranquille et cultive son jardin, mais quand on commence à venir le titiller, il n'hésite pas à sortir le glaive et le bouclier, et ça peut faire mal. Donc voilà, il ne faut peut-être pas trop titiller l'or en 2024.
Philippe, vous parliez de la masse monétaire, de la création monétaire ces dernières années. Vous en avez parlé, le Bitcoin notamment parmi les cryptos est en train d'en profiter fortement. Est-ce qu'on peut imaginer aussi le même scénario pour le cours de l'or ?
C'est-à-dire une évolution
fulgurante
ou une rupture.
On a beaucoup d'experts qui s'avancent sur un cours du Bitcoin à 100 000 dollars cette année. Alors, on ne va peut-être pas viser 100 000 dollars pour l'once.
Sur les cryptos. Alors, crypto, pour certains, c'est vrai, c'est la nouvelle valeur refuge. C'est l'or des temps modernes, l'or digital. Bon, il faut voir que le cours du Bitcoin est beaucoup plus en forme de montagne russe que l'or, qui a quand même une certaine inertie. Et parce qu'il y a des acteurs sur l'or qui sont des acteurs reconnus, qui ont d'autre part des politiques de long terme, ce sont les banques centrales en particulier. D'autre part, l'or est également une matière première avec la joaillerie. C'est quand même un des principaux usages de l'or aujourd'hui. Ce n'est pas donc la valeur refuge, mais c'est un usage de bijouterie. Et puis il y a l'or industriel qui sert pour tout ce qui est donc électronique, informatique, énergie renouvelable. Donc il y a plusieurs aspects de l'or qui font que globalement les évolutions sont moins heurtées que les cryptos. Les cryptos aujourd'hui connaissent une hausse importante en lien avec les liquidités dont j'ai parlé, de le fait qu'il y a un lien entre crypto et les marchés de haute technologie et avec le Nasdaq. Quand le Nasdaq se porte bien, en règle générale, les cryptos également sont en hausse. D'autre part, il y a eu l'essor de tout ce qui est les fonds indiciels, les NTF en crypto et en Bitcoin. Et donc, ça a créé donc un appel d'air extrêmement important, parce que donc les BlackRock, etc., qui ont mis en place donc ces fonds indiciels, ont acheté par définition des bitcoins pour plusieurs milliards de dollars, et cela a entraîné la hausse de ces derniers jours. Après, on a connu des chutes impressionnantes quand des acteurs se sont mis à vendre, comme Elon Musk. Il a acheté pour 3-4 milliards, il les a revendus après avoir fait une plus-value. Et donc, on n'est pas sur un marché réglementé, on n'est pas sur un marché avec des acteurs connus, on va dire, avec des comportements donc financiers de long terme. On est sur des coûts, on est sur du spéculatif. Donc, je ne placerai pas aujourd'hui le Bitcoin au même niveau que l'or. D'autre part, le Bitcoin pourrait être remis en cause à un moment donné par le développement des monnaies digitales de banques centrales. les banques centrales conservent cette arme pour à un moment basculer sur de la crypto-monnaie. Et donc ça pourrait, dans ces cas-là, évidemment, modifier complètement le marché des crypto-actifs tel qu'on le pratique aujourd'hui.
Alors, on l'a bien compris, la crypto et l'or, c'est pas du tout la même chose. Mais on vise quoi en 2024 pour le cours de l'or ? Est-ce qu'on a un chiffre là ? J'ai vu des chiffres circuler, hein, des 2 500 $, par exemple, qui ne semblent pas totalement délirants. Quand on parle, encore une fois, de 100 000 $ pour le Bitcoin, on fait du x2. Ici, là, c'est prendre 20% peut-être sur l'année. Est-ce que ça vous semble...
2 500 $ pour l'or n'est pas du tout délirant dans un contexte qui l'y porterait. Pour moi, 2 500 n'a de sens que si on avait un choc exogène à l'or lui-même. Qui le pousse vers ça. Donc un choc exogène qui, limite, ne serait même pas connu aujourd'hui, puisque globalement, tout ce qu'on a à connaître de l'or en 2024, pour moi, est déjà digéré. C'est-à-dire les baisses de taux.
Ouais.
Donc toute autre chose qui rendrait possible d'aller au-delà des, même, je dirais, des 2 200, sont des événements exogènes. Bon, mais là, par contre, on manque pas de possibilités. Donc voilà, c'est face à ça qu'on pourrait se retrouver. Je sais pas, tel pays qui va au-delà des limites qui s'étaient prévues dans les invasions de ses voisins et sur un malentendu, va au-delà de ce voisin et va vers un autre. Enfin, voilà, enfin, tout est possible, tout est envisageable parce que l'humain réserve toujours des surprises. Et l'or est très réactif à l'activité humaine, en fait. C'est d'ailleurs peut-être la monnaie la plus humaine qu'on ait inventée et qui soit encore en vie, puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'essentiel d'ailleurs de son prix est fixé entre un mineur dans tel ou tel pays et de l'autre côté quelqu'un qui est en posture d'acheter un bijou pour l'offrir à sa bien-aimée pour un futur mariage. Donc c'est ça qui globalement fixe le cours de l'or. Voyez. Donc,
plus que, par exemple, le jeu de l'offre et la demande. Tout à l'heure, vous parliez tous les deux de l'attitude des États qui peuvent être acheteurs.
L'offre et la demande est aujourd'hui globalement assez stable. On la connaît déjà. Or, on est sur des logiques où les cours réagissent à des demi-informations. Donc, on a déjà digéré tout ça. Et le cours que l'on a vu il y a quelques jours est déjà en phase avec tout ça. Donc, si on a un cours qui allait au-delà des 2 200 $, c'est on réagit à quelque chose que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Voilà. Après, il n'y a pas de raison, au-delà de la mécanique des marchés. Ça c'est autre chose. La mécanique des marchés fait que, voilà, une fois qu'on a franchi telle résistance, globalement, on va pouvoir continuer à évoluer au-dessus. Mais les marchés ont tout intérêt aussi à ce que tel actif puisse baisser pour se repositionner dessus. Et les confrères qui annoncent 2 500 $, etc., moi, je les connais par cœur depuis des années. Je sais pourquoi ils ont tout intérêt à annoncer ce genre de choses, parce qu'ils sont souvent jugés partis. Et ils ont intérêt d'annoncer certaines choses pour se positionner sur des postures des fois inverses.
Donc pour résumer concrètement, à part un événement dramatique, en fait, le cours de l'or va rester tel quel ?
Le cours de l'or va vivre sa vie, globalement plutôt suivre l'inflation et voilà, réagir à des événements un peu brutaux qui pourraient se produire en 2024 et on ne manque pas de possibilités. Ouais. Et par contre, pour rebondir sur les cryptos, parce que c'est quand même intéressant aussi, parce que souvent on les met en parallèle et moi je suis assez neutre là-dessus puisque j'ai les deux activités, donc je suis vraiment très, très zen sur le sujet. Pour moi, c'est deux cycles aujourd'hui complètement différents. Le passé nous a montré que Bitcoin, je parle que de lui parce que pour moi le reste...
Il y a moins de recul sur le Bitcoin quand même.
Bah exactement, il y a à peu près 5000 ans de recul en moins, mais ça c'est pas grave, la valeur n'attend pas les années. Pour autant, ce n'est pas le même marché, ce n'est pas le même marché en quantité, ce n'est pas le même marché, on va dire, primaire dans son usage. Comme on le disait tout à l'heure, l'industrie du bijou sur l'or est un usage, en fait, entre guillemets, tangible. Aujourd'hui, l'usage tangible du Bitcoin, on l'a, par exemple, je ne sais pas, quand il est utilisé comme monnaie au Salvador ou dans des transactions quasi monétaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça reste des pourcentages relativement faibles puisque Bitcoin est utilisé pour lui-même. C'est-à-dire que ce qui fait le marché du Bitcoin, c'est le marché de Bitcoin lui-même. Ce qui fait le marché de l'or, c'est tout autre chose que le marché de l'or lui-même. Modulo, voilà, les quelques éléments techniques qui peuvent se produire. Et ça, on l'a observé déjà depuis plusieurs mois et plusieurs années. Il n'y a généralement pas de scandale sur l'or qui fait que l'or part à la baisse. Par contre, on a connu des scandales qui envoient le Bitcoin à la baisse parce que un tel a disparu, etc. Parce que mécaniquement, le Bitcoin, lui, il est plutôt programmé pour partir à la hausse, quoi. Ça, c'est par design, c'est une monnaie déflationniste. Par design, il doit partir à la hausse. Mais il y aura toujours quelque chose qui fera que sur un marché qui est relativement petit, avec des impacts qui peuvent être très forts parce que telle baleine a tout vendu ou tel autre a cramé son exchange, bah évidemment, là, ça va avoir un impact qui va faire baisser l'actif de 80%. Ça, on ne le connaît pas sur l'or.
Avec aussi un point important que vous aviez soulevé, c'était que les jeunes sont plus attirés par le Bitcoin aussi.
Ah oui, mais ça c'est une évidence et vous confirmez.
Bien sûr, oui.
Est-ce que les jeunes achètent de l'or aujourd'hui ?
Alors nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur des plateformes purement digitales. Donc nous, des jeunes, on en voit. Alors on est plutôt quand même sur des populations typiquement au COF, c'est plutôt des 50 ans et plus. Veracash, qui est notre système, on utilise l'or comme une monnaie. Là, c'est plutôt des 35 ans et plus. Et effectivement, les jeunes restent plutôt une minorité. Ça va être 25-30% de notre clientèle. Mais on sait que le fait d'être dans le digital nous permet de nous positionner sur une population qui, malgré tout, s'y intéresse aussi. Nous, on a eu fait des sondages de manière assez régulière. Même les 18 ans avaient une vraie réponse sur l'or. Ils disaient oui, si, ça m'intéresse. C'est juste que globalement, ils n'en avaient jamais vu, ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait et ils ne savaient même pas quoi acheter. Et il y avait une forme de fantasme qu'on ne retrouve pas sur les 50 ans et plus, qui globalement savent à quoi ressemble une pièce, vite fait peuvent connaître la fiscalité et en plus ont les moyens aussi de l'acheter parce qu'ils disent ouais, mais l'or, à moins de 400 euros, je n'ai rien. Bon, ce qui n'est pas vrai quand on gratte un petit peu, c'est comme le Bitcoin, l'or, il est ultra divisible. Et l'or, on peut le négocier en temps réel aussi comme le Bitcoin, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle des layer 2. Quoi. Il y a le layer 2 du Bitcoin qui permet de le négocier en temps réel. Il y a aussi le layer 2 de l'or qui permet de le négocier en temps réel.
Philippe, vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Sur les jeunes, c'est vrai que dans les études qu'on a réalisées au cercle de l'épargne, il y a une véritable propension, une appétence à aller vers les cryptos. 35% des jeunes considèrent que c'est le meilleur placement à l'heure actuelle, que ça devance l'assurance vie, les actions, l'or. Mais donc là, il y a évidemment un phénomène générationnel. Il y a le phénomène évidemment en ligne, la possibilité d'être complètement dématérialisé. Donc, et puis du gain rapide, la possibilité de, en deux clics, de gagner de l'argent. Et d'en perdre souvent d'ailleurs, in fine. Mais il y a cet espoir du gain rapide qui a entraîné donc cet engouement chez les moins de 35 ans pour les cryptos. En ce qui concerne l'or, c'est évidemment plutôt donc une valeur qui est conservée par les plus de 50 ans, on va dire, de manière traditionnelle. D'ailleurs, pas de manière spéculative. C'est plutôt on achète de l'or comme valeur refuge qu'on conserve et qu'on va transmettre donc aux enfants, aux petits-enfants, oui. les grands-parents qui achètent des pièces d'or pour leurs petits-enfants, disant « tu le conserves, on ne sait jamais, ça pourrait être utile ». Donc il y a tout à fait une autre philosophie par rapport à la crypto.
Et c'est un actif aussi physique, dans le sens où il peut y avoir une valeur affective
en fait.
Aussi
ouais.
qui est liée à l'objet en lui-même. Parce que, encore une fois, on parlait du Bitcoin et de l'or, bon, ils ont quand même un point commun, c'est que intrinsèquement, il n'offre pas de rendement comme un placement classique. Donc finalement, le vrai gain sur ce genre d'actif, c'est la plus-value à la revente.
Par définition, et on ne revend qu'une fois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on dit souvent à nos clients sur l'or, mais on a exactement le même discours sur le Bitcoin. Sachez quand il faut vendre. Et globalement, peut-être la meilleure attitude, c'est de ne jamais vendre et de pouvoir transmettre. Alors ça, c'est plutôt le discours justement qu'on donne à notre clientèle 50 ans et plus, qui justement a des enfants, donc se sent dans une responsabilité peut-être un peu moins égocentrée. Parce que ces actifs, ne les vendons qu'une fois. Et appréciant ces actifs, on se repositionne à quel prix ? Et souvent, les gens sont un petit peu embêtés. Ils disent « Ah oui, mais là, si je vends maintenant, je pourrais revenir quand et comment ?» Donc finalement, ils ne vendent pas, sauf s'ils ont le couteau sous la gorge. En fait, globalement, c'est ce qu'on leur conseille. Accumuler de manière régulière, ne soyez pas émotifs. Et là, c'est valable pour l'or, pour le Bitcoin, faites du DCA. Donc répartissez dans le temps vos achats pour globalement neutraliser les effets de court terme. Sachant qu'on est sur des actifs qui sont plutôt haussiers, moyen et long terme, Donc, basiquement, c'est vraiment pour justement, notamment même les jeunes qui n'ont peut-être pas trop de temps à trop s'investir dans la compréhension des marchés, etc. Acheter tous les mois le 5 à 18 heures telle catégorie d'actifs, c'est globalement, mécaniquement, sur certains actifs, notamment donc l'or et le bitcoin, d'être plutôt gagnant sur le long terme parce qu'ils sont haussiers par design.
D'ailleurs, sur le long terme, hein, on a chaque année les statistiques de l'IEIF, l'Institut d'épargne immobilière et foncière, et sur 15 ans, de mémoire, l'or est le placement le plus rentable sur la période 2007-2022. Donc ça montre en effet qu'on a plutôt intérêt à le détenir sur une période assez...
Oui,
assez...
clairement, surtout dans les contextes dans lesquels on se trouve. Et puis même si on remonte plus loin, sur 50 ans, on est en moyenne à 8% par an. Il y a des choses qui ont surperformé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont sous-performé. Donc voilà, pour quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas fait pour faire rêver, mais qui est là pour être un peu l'assurance incendie du reste du patrimoine, dans une logique de pure diversification, on n'a pas à dépasser 20% sur son or, comme on n'a pas à dépasser 5% sur ses cryptos. Ça se plante plutôt bien là, et ça pourra être bien utile dans quelques mois ou quelques années, si on a un coup de feu.
On a beaucoup parlé du combien, peut-être pour avancer et terminer l'émission, on va peut-être parler du comment on investit, dans quoi on peut investir, parce qu'on parle de l'or, mais il y a l'or physique, il y a l'or papier, Philippe, comment ça se décline, toutes ces choses-là?
Donc, l'or, c'est vrai qu'on peut y accéder de différentes manières, il y a évidemment l'achat de pièces, de lingots, de mini-lingots, donc là il y a une vaste panoplie, avec justement des tarifs différents, pour avoir de l'or physique, qu'on peut évidemment conserver chez soi, avec quand même un petit danger, c'est que son cambrioleur préféré peut évidemment, donc à un moment donné, faire main basse. On peut évidemment le mettre donc dans des coffres. On peut évidemment acheter également de l'or papier. On peut l'acheter sous différentes formes. Il y a évidemment les fonds indiciels, qui permettent donc de répliquer le cours de l'or donc en temps réel. Et là, on achète une part d'un fonds, comme on peut acheter une part d'un organisme de placement collectif, SICAV, fonds communs de placement. On peut également acheter, ce qui n'est pas inintéressant, des actions de sociétés aurifères. Parce que les mines qui exploitent de l'or, et souvent, la valeur de cette action dépend évidemment du cours de l'or. Et là, d'un seul coup, on retrouve des dividendes. On a des revenus et donc on a à la fois une action qui réplique le cours de l'or et on a des revenus, donc c'est une autre façon donc d'accéder au marché de l'or.
Est-ce que ça réplique, Jean-François, est-ce que ça réplique précisément le cours de l'or, hein, quand là on est vraiment sur l'or papier?
Alors pour en revenir aux minières, oui. Effectivement, c'était très intéressant d'en avoir parlé parce que justement, ça peut être des fois des belles opportunités, mais il faut les connaître individuellement chacune. Elles n'ont pas nécessairement toutes les modèles économiques. Voilà, parce que là, on parle à l'échelle d'entreprise, donc ils n'exploitent d'ailleurs peut-être pas que de l'or. Et donc des fois, on pense investir dans une minière purement aurifère, mais en fait, elle ne fait pas que ça. Et elle peut s'être mise en péril sur d'autres matières, voire même sur des projets spécifiquement. Donc on reste sur de l'entreprise. Et là, typiquement, d'ailleurs, dernièrement, les minières étaient plutôt pas nécessairement aussi performantes que le cours de l'or parce qu'elles ont quand même subi l'inflation. Et donc, globalement, c'est venu un petit peu calmer les ardeurs de certains actifs. Alors, pour autant, après, les ETF, par exemple, sont très intéressants, mais pour quelqu'un qui va plutôt faire du trading, quoi, je caricature, mais il achète le matin à 9h et il revend le soir à 18h.
C'est moins palpable aussi.
Alors, c'est moins palpable, mais c'est super pratique. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on place un ordre, boum, on achète, on revend, c'est très, très bien. Mais sur l'ETF, il y a un risque de contrepartie. Ça reste un actif où, même si on vous dit que derrière, il y a 100% d'or, des fois, ce que l'on sait, c'est que derrière 3 ETF, il y a la même contrepartie. Donc oui, chacun, oui, il a effectivement 100 tonnes, mais c'est les mêmes 100 tonnes pour les 3. Sauf que si un jour, il y a une forme d'entrimée de bank run sur ces ETF, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un peu comme quand la marée est basse, ceux qui n'avaient pas de maillot, on les voit. Ça, typiquement, en 2008, ça a été assez criant d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui ont eu un petit peu peur de leurs ETF, même or, parce qu'ils étaient gérés par des banques qui, elles-mêmes, à ce moment-là, se retrouvaient un petit peu en péril. Donc là, il y a quand même le risque de contrepartie. Donc les ETF, c'est super, mais dans une logique de pure trading, et en mon sens, c'est plutôt à éviter pour le long terme. Même si c'est pratique, même si c'est digital, mais ça ne fait pas tout. On se met en péril. Après, à l'autre extrême du spectre, moi, je rappelais quand même une chose, le grand confinement de 2020, parce que là, moi, sur le coup, moi, ça a modélisé complètement mon business model de 10 ans avant, c'est que quand tout le monde est confiné à la maison, à la limite, il vaut mieux avoir de la farine pour faire des crêpes qu'avoir de l'or, parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne pour vouloir acheter. Les boutiques de rachat d'or étaient fermées. Pire, ceux qui avaient de l'or dans un coffre en banque, la banque a été fermée, donc à plus forte raison, la salle des coffres aussi. Donc, c'était peut-être le pire moment, et on avait peut-être à ce moment le plus besoin possible de revendre son or, mais on était dans l'incapacité de le faire pour des raisons techniques. Alors nous, on était hyper satisfaits chez OCOF parce que justement, on offrait un service digital autour d'un actif physique. Donc là, les acheteurs, les vendeurs se sont donnés cœur joie. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je sais, moi, j'ai souvent des clients qui me disent « Oui, mais moi, je veux mes pièces à la maison. » Je leur dis « Ok, super, vous prenez vos risques. Mais un, votre assureur ne vous remboursera pas si vous faites braquer. Il faut que vous le sachiez, sauf à lui déclarer que vous avez de l'or. Mais là, la prime d'assurance ne va pas être la même. » Et s'il y a un événement grave, et l'événement grave, contrairement à des fois ce que disent certains de mes clients, ce n'est pas les zombies qui vont attaquer, c'est typiquement un virus qui peut arriver ou des choses un peu comme ça, Black Swan, qui n'étaient pas prévues. Et ça, à ce moment-là, quelle est la liquidité de l'or? Et nous, sur ces aspects-là, on est très parano. Moi, c'est des périodes où on a mis en place des connexions Starlink pour avoir de l'Internet, même s'il n'y avait plus d'Internet en France. Enfin, voilà, c'est tout un modèle résilient qui doit être autour de son or pour pouvoir l'exercer au moment où on en a besoin. Voilà.
Mais comment on fait, peut-être on va conclure là-dessus, Bérénice, comment on fait pour investir quand on n'y connaît pas grand-chose dans l'or et on veut prendre le moins de risques possible?
On achète du Napoléon. Non, mais je résume et je caricature très vite, peut-être, mais on m'excusera. Le lingot, et à plus forte raison, le mini-lingot, pour un particulier, on évite. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut se retrouver dans des postures où le marché de l'or, comme j'expliquais tout à l'heure, peut être baissier. Et donc, comme les lingots suivent strictement le cours de l'or, on va se retrouver baissier sur cet actif. A contrario, les pièces sont plutôt sur des marchés de gré à gré. C'est vous, vous voulez en acheter, à vous, etc. Et dans des périodes un peu tendues, à ce moment-là, on prend une survaleur sur le cours de l'or qui se traduit par ce qu'on appelle une prime sur les pièces et qui fait que dans ces moments-là où on est sous pression, et vous, à contrario, si vous étiez plutôt vendeur, eh bien, votre pièce, même dans un marché de l'or baissier, mais parce qu'on est dans un marché global qui, lui, est très tendu, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des pièces qui vaudront largement plus que l'or qu'elles contenaient et qui, elles-mêmes, peuvent être à la hausse. Moi, je l'ai connu ça en 2008. En 2008, dans un marché de l'or baissier, on était gagnant de 20% sur les Napoléons. Et on était même gagnant de 80% sur certaines pièces américaines qui étaient très demandées à ce moment-là. Même pendant le Covid, d'ailleurs, aussi, pendant les fameux 15 jours là, où il y a eu le krach boursier, le cours était baissier de 15-20%. On était largement gagnant sur le Napoléon parce qu'on était en incapacité d'en trouver. Donc, les quelques rares qu'il y en avait à vendre, par exemple, nous, ça se vendait sur notre plateforme à des prix qui n'étaient pas vus depuis pas mal de temps. Donc voilà, le Napoléon, il faut juste le garder longtemps, sinon on subit une taxe et ce serait dommage. Mais on parle de l'or dans une logique long terme. Donc, voilà.
Et Philippe, vous avez des Napoléons, peut-être pour conclure?
J'ai un Napoléon qui m'a été offert par ma grand-mère, vous voyez, il y a quelques années. Donc, et je le conserve donc religieusement.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment une valeur sentimentale.
Dans le cas d'une transmission, elle avait acheté une pièce pour donc tous ses petits-enfants et on les a tous conservés.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Jean-François Faure, merci Philippe Crevel pour votre expertise, pour nous avoir partagé votre expertise. Tout de suite, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, le président fondateur du cabinet PrimeView, président de l'OREP. Et juste après, il y aura votre séquence, ça vous concerne, avec nos experts qui répondent à vos questions.
Le coup de gueule.
Ce mois-ci, le coup de cœur n'est pas un coup de cœur, d'ailleurs c'est un coup de gueule. Tout simplement pour qualifier la période actuelle qui est de plus en plus étrange pour un certain nombre d'investisseurs, puisque au même moment où les retards de paiement commencent à s'accumuler, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, où un certain nombre de défauts sur certains types d'émissions aussi sont en train d'augmenter, on a eu tout récemment les chiffres du chômage aux États-Unis. Les chiffres de l'emploi temporaire sont là aussi mal orientés depuis d'ailleurs de nombreux mois. On a aussi en fait l'emploi en Californie qui commence à battre de l'aile avec des taux de chômage qui augmentent relativement sensiblement, eh bien, à ce moment-là où l'économie réelle est en train de traduire tout simplement ce qu'a essayé de faire la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, en retirant du carburant de la machine pour essayer de faire ralentir l'économie américaine depuis maintenant presque 2 ans, eh bien, au moment où la Banque centrale arrive à ses fins, où on constate le ralentissement et la démographie entrepreneuriale est en train en fait, de le traduire, avec là aussi des niveaux de faillite qui sont en train d'augmenter, eh bien, on a des indices actions qui caracolent donc, et battent systématiquement leur plus haut historique. Alors, deux éléments, j'en avais déjà parlé le mois dernier, il faut le rappeler, attention à l'illusion de ces indices actions qui battent leur record. En réalité, ils le battent de manière relativement esselée. C'est-à-dire qu'on est face à des indices actions dont les fondations sont en train de se rétrécir de plus en plus et se réduisent progressivement à peau de chagrin. Un mot pour le traduire, c'est-à-dire que l'indice de référence aux États-Unis, alors on regarde beaucoup les États-Unis parce que c'est le marché directeur qui finalement donne le la de l'ensemble des indices actions internationaux, y compris européens et pour notre bon vieux CAC 40. Eh bien, lorsqu'on regarde le S&P 500, c'est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines, eh bien, celui-ci affiche une progression de quasi presque 10% depuis le début de l'année. Or, lorsqu'on regarde les plus petites valeurs, celles qui ne composent pas en fait cet indice, le Russell 2000, c'est celui qui représente mieux la démographie entrepreneuriale des États-Unis, même si on est quand même sur le haut du panier, là, on est déjà qu'à 2%. 2%, 2,5% d'augmentation depuis le début de l'année, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une concentration en fait des paris et des entreprises qui monte, qui est réduite à un tout petit nombre. Et de plus en plus, d'ailleurs, hein, puisqu'on pourrait presque résumer la hausse du S&P 500 à la hausse d'une entreprise, d'une valeur, celle donc portée par la thématique de l'intelligence artificielle, à savoir Nvidia, qui, elle, progresse depuis le début de l'année. Hein. Nous ne sommes voilà, que toute fin du mois de mars, début avril, de 90%. 90% de hausse en 3 mois. C'est extrêmement important, j'irais presque c'est trop important, et ça commence en fait à nous pousser à qualifier la période actuelle d'une période qui commence à ressembler à ce qu'on a vécu au début des années 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, la thématique qui était jouée, c'était celle d'Internet, qui allait révolutionner le monde. Évidemment, elle l'a fait, hein. Internet a révolutionné le monde et aujourd'hui a dessiné ce que nous sommes aujourd'hui en termes d'usage en tout cas. Naturellement, ça s'était traduit par des indices actions qui s'étaient littéralement envolés. Parce que quoi d'autre à jouer qu'une thématique qui va l'emporter sur toutes? Et donc, elle l'a fait. Sauf qu'il faut se rappeler tout de même que le chemin entre mars 2000, le point haut de la bulle Internet, et mars 2003, qui est son point bas, les indices actions dans leur ensemble ont baissé de 55%. Donc attention, une thématique qui l'emporte ne doit pas pousser en fait, à la jouer, j'irais, de manière disproportionnée. Et or, aujourd'hui, on est face à un contexte qui nous amène à identifier 2 éléments. Premier élément, déjà, lorsqu'une thématique émerge, on sait que l'intelligence artificielle va effectivement bouleverser les usages, mais on ne sait pas qui va être en capacité en fait, d'en bénéficier au premier chef. Et c'est toute la difficulté d'une thématique finalement relativement jeune. Il faut la jouer, mais qu'est-ce, à travers quel levier? Aujourd'hui, ça se résume essentiellement à Nvidia. Mais l'étroitesse finalement de ce pari-là le rend risqué, parce que vous savez que la meilleure manière de gérer le risque, sur les marchés actions en tout cas, c'est la diversification. Donc finalement, un seul pari très concentré, avec des niveaux de valorisation qui sont déments. Hein, on atteint 70 années de bénéfices. Aujourd'hui, au cours actuel, Nvidia se paye 70 années de bénéfices des bénéfices projetés en 2024. Rendez-vous compte, hein, évidemment, quand le marché dans son ensemble se paye une vingtaine d'années de bénéfices. Donc on est vraiment sur un pari extrêmement recentré. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et j'en rajouterai presque 2, c'est que, un, cette thématique de l'intelligence artificielle va se confronter brutalement à une thématique, à une autre thématique qui était censée l'emporter, qui est pour le coup pas mal refluée depuis, qui était celle de la problématique environnementale. Hein, il faut savoir que l'intelligence artificielle, son corollaire, c'est qu'elle est une très grande consommatrice d'électricité, de manière quasi boulimique. Et donc, face à ce besoin d'énergie, on va être confronté assez rapidement à des intérêts qui vont devenir contradictoires au fil du temps. Donc, deuxième élément, sur la soutenabilité du modèle tel qu'il est dessiné aujourd'hui, oui, certes, ça va bouleverser nos usages, mais pas à n'importe quel prix, notamment un prix environnemental qui devrait progressivement poser des contraintes aux acteurs de ce monde-là. Et troisième point, c'est que tout ça traduit tout de même une thématique sous-jacente qui s'appelle la thématique des trusts, hein, qu'on aime à valoriser, à savoir c'est celle qui l'emporte systématiquement. Il n'y en a qu'un qui emporte tout sur son passage. Alors, par le passé, on parlait d'Apple, on parlait de Meta, on parlait de Microsoft. Aujourd'hui, on parle de Nvidia. Mais la problématique de cette de ces grands trusts, c'est qu'ils finalement, ils laissent très peu de place en fait à tous les autres. Or, qu'est-ce qui se passe? On sait d'ailleurs, à juste titre, hein, puisque dans ce monde-là, un monde de concentration, eh bien, tous les acteurs sont consolidés à travers le plus gros. Le plus gros dispose de suffisamment d'argent pour acheter tout le monde. Et donc, c'est normal finalement que celui-ci l'emporte systématiquement. Sauf à ce que les règles du jeu changent. Et la différence du mois dernier, chaque jour qui passe amène son lot de discours politiques qui pointent du doigt cette thématique des trusts. Or, historiquement parlant, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un agent privé, à savoir une entreprise, est devenue si grosse qu'elle finit par étouffer toutes les autres et devient concurrent naturel de l'État, eh bien, naturellement, les règles du jeu sont amenées à changer. Or, c'est déjà ce qu'on constate depuis maintenant quelques semaines. Des deux côtés de l'Atlantique, les autorités sont en train de pointer du doigt ces trusts, leur position monopolistique et le fait qu'il faille changer les règles du jeu. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, mais la perspective même d'avoir de l'instabilité qui viendrait en fait de ces règles du jeu-là nous amène à juger la thématique actuelle jouée de manière excessive. La conséquence de cela, et c'est pour ça qu'on pose un coup de gueule aujourd'hui, c'est que les marchés ont probablement été trop vite et qu'aujourd'hui, il est préférable de jouer la prudence et ne pas surjouer la thématique de l'intelligence artificielle.
Ça vous concerne.
Et oui, ça vous concerne, c'est votre rubrique. Je rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions par mail à nos experts à l'adresse grand-rendez-vous-de-l'épargne@prismamedia.com. L'adresse s'affiche, ce sera plus simple. Donc n'hésitez pas, nos experts y répondent. La première aujourd'hui, c'est Nathalie Gouzier-Goussuas, notaire à Paris. Bonjour maître.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Thibault, nous avons donc une première question d'une lectrice qui n'a pas laissé son nom.
Bah, ça arrive, ouais, ça,
il ne faut pas oublier de dire son nom.
Voilà. Oui. Notre lectrice anonyme a acheté une maison avec son mari, mais un achat en indivision. Elle veut savoir ce qui se passera si malheureusement son époux passe à trépas. Et elle veut savoir si elle devra payer les impôts sur la succession, sachant que son conjoint actuel donc a un enfant d'un premier mariage. Elle veut savoir aussi si elle pourra conserver la garde de la maison.
Voilà, ça c'est une question récurrente, hein, auxquelles on est souvent confronté. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, et ça date depuis 2002 en fait, la loi elle a considérablement augmenté les droits de l'époux marié veuf en fait. C'est-à-dire que celui-ci, en fait, de par le code civil, est protégé. Alors, que prévoit la loi? Parce que notre lectrice anonyme, en fait, elle est confrontée, les deux héritiers, bah c'est elle et la fille d'une précédente union de son mari qui n'est pas évincée parce qu'elle est d'une précédente union. Mais que prévoit la loi dans ces cas-là? Et bah, la loi prévoit une répartition quand il n'y a pas eu de testament. Bah, le conjoint, il a 25% du tout le patrimoine du défunt, de celui qui part, et la fille, du coup, a les trois quarts. Mais ce qu'il faut savoir en tout état de cause, c'est que le conjoint survivant, donc notre lectrice anonyme, elle a un droit viager à rester dans les lieux. Concrètement, ça veut dire que au décès de son mari, si malheureusement il décède avant elle, mais le problème serait peut-être pareil si elle venait à décéder, eh ben elle pourra en tout état de cause rester dans les lieux sans avoir à donner un loyer, une compensation à la fille. En revanche, les droits de la fille sont quand même figés, c'est-à-dire que ce conjoint survivant, bah, il ne pourra pas vendre la maison sans l'accord de la fille. Mais en tout état de cause, rassurons notre lectrice, elle ne pourra pas être chassée parce que la loi prévoit qu'elle bénéficie de ce qui s'appelle un droit viager au logement, c'est-à-dire un droit au maintien dans les lieux concrètement. Notons d'ailleurs que son époux pourrait faire un testament à son profit en élargissant ce droit viager et en disant bah voilà, je lui lègue non pas seulement le droit viager, mais le droit d'usufruit, qui est un droit un peu plus étendu parce que ça lui permet non seulement de rester dans les lieux, mais aussi, pourquoi pas, si elle veut pas vendre la maison et bénéficier de revenus, louer la maison. Hein. En ce qui concerne les droits de succession, eh ben le conjoint survivant, depuis 2007, il est complètement exonéré. C'est-à-dire qu'elle, elle n'aura pas droit de succession. Il n'en ira pas autant pour la fille, qui, elle, aura des droits de succession si la part qu'elle est censée recevoir dépasse 100 000 euros, seuil de franchise fiscale. Mais Dieu merci, quand le conjoint survivant reste dans les lieux, la fille peut quand même demander aux impôts le bénéfice d'un paiement différer des impôts pour ne payer qu'au second décès. On comprend bien l'idée. Cette fille ne recueillera en rien matériellement, alors qu'elle est héritière. Le fisc, bien sûr, comprend qu'elle ne puisse régler que lors du second décès, c'est-à-dire que lorsque les biens seront libres à la vente.
Et ce droit viager, ce sera jusqu'à la mort de notre
oui,
lectrice. Hein,
elle bien
peut y
sûr,
rester toute
tout
sa
à
vie.
Fait. Elle peut y rester toute sa vie. Et donc, du coup, sauf si elle devait quitter pour une maison de retraite, dans ce cas-là, elle pourrait aussi louer, mais dans des cas particuliers. C'est pour ça, peut-être, qu'il a intérêt, l'époux de notre lectrice, à faire un testament en disant, s'il a d'autres biens, je retire à mon conjoint le quart légal prévu par la loi, parce que ça permet une transmission, la propriété transmise à l'épouse qui, elle, va le transmettre à ses propres héritiers, tandis qu'un droit d'usufruit viager, ça s'éteint au décès de l'épouse. Ouais. C'est-à-dire que, concrètement, s'ils ont acheté moitié-moitié et qu'ils n'ont pas d'enfants communs, et ben au décès du dernier des deux, la fille de son époux recueillera la moitié du bien et les enfants ou les héritiers de son épouse, l'autre moitié. Vous voyez, il n'y a pas dans ce cas-là avec un usufruit de transmission d'un patrimoine de l'un à l'autre.
On a une deuxième question de notre lectrice, cette fois-ci, qui s'appelle Rose.
Oui, Rose, elle veut cumuler sa petite retraite de 500 euros avec, avec l'AH, donc l'allocation aux adultes handicapés. Il faut savoir, Rose nous a fait une question assez détaillée, que le mari de Rose est propriétaire d'une maison qu'il a louée jusqu'à la fin du mois de juillet 2023. Depuis cette date, le locataire est parti à la cloche, comme on dit, sans payer. La maison est en vente. Et Rose veut savoir quels seront les revenus qui seront pris en compte pour le calcul, la détermination de l'AH, et notamment si le jour où la maison est vendue et que son mari place un petit peu d'argent sur un compte rémunéré pour Rose, si notamment ce compte-là sera pris en compte et
bien
si elle va perdre son... Finalement, son allocation.
Bien sûr, parce qu'en fait, l'allocation d'adultes handicapés, alors c'est pas une innovation, ça date de 1975, donc il y a plus de 50 ans. En fait, ça participe de la solidarité naturelle nationale. C'est-à-dire qu'une personne qui est handicapée et qui a des ressources faibles peut, dans certaines conditions, bénéficier d'une allocation spécifique qui s'appelle l'allocation d'adultes handicapés, AAH. Concrètement, en abréviation. Et en fait, pour calculer cette allocation d'adultes handicapés, pour calculer le montant et les conditions d'attribution, outre bien sûr le degré d'incapacité, ben on regarde les revenus de la personne. Pas son patrimoine d'ailleurs, pas comme les pensions de réversion. Mmh. On regarde ses revenus. Or, il fut encore un temps, et c'était de sorte que trois quarts des allocataires en couple ne pouvaient pas y prétendre, et ben, on conjugalisait les revenus. C'est-à-dire concrètement, quand une personne était en couple, qu'elle soit mariée, paxée ou vivant en concubinage, ben, on regardait ses revenus, mais on regardait aussi les revenus de son compagnon. Et du coup, on les cumulait, et si ça dépassait les seuils d'attribution de l'AH, et ben, l'allocataire potentiel en était privé. Du coup, la loi est venue corriger cette règle austère qui faisait qu'en fait, on avait, la personne vulnérable avait le sentiment de dépendre financièrement d'une part de son compagnon et puis d'autre part, ça faisait que certaines personnes vulnérables ne se mettaient pas en couple. Donc, il y avait des effets pervers. Donc, la loi, il y a une loi au 1er novembre 2023 qui est venue corriger, donc depuis le 1er novembre, cette conjugalisation des revenus. C'est-à-dire que maintenant, il y a une déconjugalisation, que vous soyez marié, paxé ou compte. On ne regarde que vos revenus à vous. Pour les conditions d'attribution. Donc, pour répondre à Rose, qui a un super joli prénom, son mari, par exemple, loue le bien et ne le vend pas, on ne regardera pas les revenus, comme, alors qu'avant, on en aurait considéré les revenus de la location, puisque c'est un bien qui appartient à son mari. En revanche, si son mari lui passe des sous et que ça lui procure des revenus, ça, évidemment, on va en tenir compte ces revenus que Rose va percevoir directement dans le calcul de son allocation d'adulte handicapé, qui aujourd'hui est de 971 euros de mémoire, 23.
Donc si son mari, mettons, vend la maison, place 100 000 euros pour Rose sur un
Rose et que ça lui procure des revenus de 2% par an.
Voilà, donc on prendra 2 000 euros qu'on ajoutera aux
exactement
ressources.
Exactement, aux ressources, et du coup, ça va partant diminuer, voire supprimer son allocation d'adulte handicapé.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup, maître.
Merci.
Ça vous concerne.
Et on accueille tout de suite notre deuxième experte qui vient répondre à vos questions. Charlotte Tamer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'offre épargne salariale chez Shares et nous avons une question de Jade pour commencer.
Oui, tout à fait. Jade, elle veut faire de la défiscalisation cette année, en 2024. Alors, elle hésite entre un PER, un plan d'épargne retraite individuel, et un PER collectif, un PER col, au sein de son entreprise. Elle vous demande, Charlotte, elle choisit quoi ?
Alors, pour répondre à Jade, effectivement, sur le plan de la défiscalisation, on rappelle rapidement, le PER, c'est comme un train avec trois wagons, où il y a un wagon individuel, donc le PER individuel, qu'on ouvre en son nom avec son épargne personnelle. Il y a le PER collectif, qu'on va retrouver au sein du dispositif épargne salariale que propose, a priori, l'entreprise de Jade. Donc, il y a le plan, il y a le PE et le PER col, en fait, c'est deux enveloppes qui coexistent. Et puis enfin, le PER obligatoire. En termes de défiscalisation, c'est-à-dire je fais des versements au sein du PER et ça m'octroie un avantage fiscal, c'est presque un crédit d'impôt, mais un avantage fiscal, eh bien, en fait, ça va être la même chose que ce soit sur un PER individuel ou un PER collectif. Alors, à bien vérifier que l'entreprise est bien sur la nouvelle version du PERCO, avec l'option de défiscalisation, ce qui n'était pas le cas avant la loi Pacte, mais a priori, elle le nomme PERCOL, PER collectif, et c'est l'appellation depuis la loi Pacte. Donc, au final, qu'elle verse 10%, on rappelle la règle de calcul, 10% de son revenu net imposable sur un PER individuel ou sur un PER collectif, fiscalement parlant, le résultat sera le même. Pour l'aider à choisir, il faut savoir que si elle choisit effectivement un PER individuel, elle va avoir le choix du courtier, c'est-à-dire l'entreprise avec laquelle elle va ouvrir son PER. Elle va pouvoir choisir l'offre de gestion. Alors que sur le PER col, eh bien, le dispositif, il est imposé par l'entreprise. Elle va arriver sur une enveloppe où il y aura un choix de gestion, parfois un peu plus limité. Donc parfois, il y a des choses un petit peu vétustes en termes de gestion financière, en termes de frais. Et parfois, on trouve des choses très d'actualité. Donc il faut qu'elle se renseigne. Mais à savoir que si elle choisit le PER collectif, elle a deux intérêts qui ne sont pas négligeables. Le premier, c'est que les versements volontaires qu'elle fera au titre de la défiscalisation peuvent être abondés jusqu'à 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire que si elle décide de verser, 8 000 euros sur son PERCOL, eh bien, elle va pouvoir bénéficier d'un abondement qui peut monter jusqu'à quasiment 7 000 euros. C'est-à-dire qu'au-delà de l'avantage fiscal, elle va bénéficier d'un abondement, si c'est une entreprise, en ami 1 au sein du dispositif du PERCOL. Et le deuxième intérêt, c'est qu'elle ne va pas payer les frais de tenue de compte de l'enveloppe, à rappeler qu'en termes de frais de tenue de compte d'un PER, qui soit individuel, je prends l'exemple d'un PER individuel, si elle le faisait par elle-même, c'est 0,6% des encours chaque année qui sont prélevés sur le capital. Et ça, sur une période d'investissement de 10, 15, voire de 20 ans, puisqu'on est sur un dispositif qui se débloque au moment de la retraite, c'est très impactant en termes de performance. Ma recommandation serait donc de lui dire, après vérification que son PERCOL permette la défiscalisation et une offre financière, on va dire, actuelle, bien c'est plutôt d'aller sur le PERCOL, bien évidemment.
Eh bien, merci beaucoup, Charlotte. On a une seconde question. Cette fois-ci, c'est Perrine, qui est indépendante, qui la pose.
Oui, c'est une freelance dans la tech. Perrine, elle a monté sa société par action simplifiée unipersonnelle. On lui expliquait qu'elle avait intérêt à ouvrir un plan d'épargne retraite du fait de son statut d'indépendant. Plusieurs plafonds existent, elle est un peu perdue. Donc voilà, elle vous demande de lui expliquer ces plafonds.
Alors, pour répondre à Perrine qui a monté une SASU, effectivement, elle a tout intérêt à capitaliser pour sa retraite parce qu'on le sait, les indépendants en fait cotisent quasiment deux fois moins que les salariés pour la retraite. Et donc, en termes de restitution au moment de la retraite, eh bien, ils perçoivent mathématiquement deux fois moins. Donc, la capitalisation boursière peut répondre en fait à cette compensation entre ses revenus en tant qu'active au moment où elle passera à la retraite. Le PER, donc le plan d'épargne retraite, peut se prêter tout à fait à cette enveloppe de capitalisation parce qu'il y a un jeu de défiscalisation qui va permettre en fait d'utiliser l'argent gagné d'un point de vue fiscal pour alimenter en fait ce dispositif retraite. Pour autant, en fait, la loi, l'État français a mis en place, donc il y a le PER tel qu'on le connaît, 10% du revenu net imposable chaque année que vous retrouvez sur votre fiche d'imposition. Vous avez vos plafonds retraite, vous pouvez les investir chaque année, vous pouvez remonter les trois années précédentes. Donc ça, c'est le régime général, régime des salariés, mais qui est aussi ouvert aux indépendants. Et en parallèle, l'État a mis en place un deuxième plafond pour les indépendants parce que comme ils cotisent moins, bah, ils ont besoin d'un plafond un peu plus sympathique pour leur permettre de cotiser un peu plus. Pour autant, attention, n'est pas indépendant qui veut au sens du droit du travail et au sens de la sécurité sociale. Et en fait, dans les indépendants, on va avoir les assimilés salariés et les travailleurs non salariés. Et ça, c'est pas vous qui le décidez, c'est le statut de votre société et puis c'est les règles du droit de la sécurité sociale et du droit du travail qui vont les déterminer. Et en fait, ce deuxième, pour reprendre le cas de Perrine, eh bien, quand on est en SASU, donc il y a plusieurs cas, pour tous les présidents de SAS, SA, SASU, en fait, on est assimilé salarié. Et donc, on n'a pas accès à ce qu'on appelle, c'est l'ancien dispositif Madelin dont on parle là ici, et donc elle n'a pas accès à ce plafond malgré son réel statut d'indépendant parce qu'elle est indépendante, mais elle ne l'est pas au sens de la sécurité sociale.
Donc elle a le même plafond qu'un salarié.
Elle a le même plafond qu'un salarié. Et donc attention qu'elle n'aille pas sur ce qu'on appelle en fait le PER tel qu'on l'entend au sens général, c'est le PER article 163 quater vici, du Code général des impôts. Et le deuxième, qui prend en compte un double plafond, c'est le 154 bis du Code général des impôts. Donc, en fait, l'intérêt, quand on est indépendant et qu'on a sa structure juridique, on va prendre par exemple un gérant majoritaire de SARL, lui, il est considéré comme travailleur non salarié au sens du droit du travail, au sens de la sécurité sociale. Et donc, lui, il peut investir non seulement sur un plafond élargi, 10% de son bénéfice imposable, plus 15% de cette fraction compris entre 1 et 8 fois le PAS. Donc c'est des calculs un petit peu compliqués, mais il y a des gens qui sont là pour accompagner, hein, les experts qui, et les experts comptables pour aider à faire ce calcul. Et ce gérant donc majoritaire de SARL peut investir grâce à ce plafond un peu gonflé, et en plus il peut investir depuis la trésorerie de son entreprise. Donc c'est un peu c'est double jackpot quoi pour lui. Mais attention pour les gens qui sont en SASU, et il y en a de plus en plus puisque la fiscalité des dividendes a été remise en question en 2013 sur la SARL. Donc beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelances se mettent en SASU aujourd'hui. Attention parce que seul le régime général, seul l'article 163 quater vici et le plafond du 10% du revenu imposable est éligible. Alors si c'est déjà ça, hein, il faut qu'elle le fasse. Donc elle peut tout à fait le mettre en place. Et par contre, si elle souhaite placer sa trésorerie d'entreprise, eh bien en fait, on lui recommande d'ouvrir le compte-titre. On en parle assez peu, mais le compte-titre peut être un moyen de permettre à son entreprise de faire fructifier la trésorerie qui, bien évidemment, n'est pas destinée au développement de sa SASU.
Merci beaucoup, Charlotte Tamer.
Ça vous concerne.
Troisième expert pour répondre à votre question, à vos questions sur notre plateau, Stéphane Absolu, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil et on commence avec une question de Franck.
Oui, Franck, il est gérant d'une société civile immobilière, une SCI. Il veut savoir s'il peut vendre seul un bien immobilier détenu par cette société.
Alors la réponse va se trouver dans les statuts. Elle peut être négative comme positive. Donc ça va vraiment falloir regarder la manière dont les statuts ont été rédigés. Juste pour rappeler le principe, lorsqu'on est gérant, les pouvoirs qui nous sont conférés relèvent des statuts et de l'objet social précisément, et notamment à l'égard des tiers. Il faut savoir qu'un gérant peut faire l'ensemble des actes qui rentrent dans le cadre de l'objet social. Donc la question qu'il faut se poser, c'est la manière dont mon objet social est rédigé. Donc là, on va avoir deux cas de figure. On va avoir le cas de figure où j'ai un objet social précis qui va me dire qu'effectivement, dans le cadre de mon activité de SCI, dans mon objet social, je peux réaliser l'actif, c'est-à-dire que je peux céder l'actif. Et donc dans ce cas-là, le gérant aura les pouvoirs qui sont liés à l'objet social de sa société et donc aura le pouvoir de vendre. On peut, de la même manière, là ça dépend après du degré, je dirais, de liberté qu'on veut donner au gérant, il est possible de prévoir dans les statuts, même si on a un objet social qui indique bien qu'on peut aller jusqu'à la réalisation de l'actif et donc la cession du bien, il est possible pour les associés de prévoir qu'il faudra un accord préalable des associés pour que le gérant puisse vendre quand même, puisse vendre le bien. Sauf que ce type de clause statutaire n'est pas opposable au tiers. Donc lorsqu'on est gérant et qu'on veut vendre un immeuble et que ce pouvoir nous est donné par l'objet social de la société, on peut à l'égard des tiers vendre le bien. Après, il y aura un enjeu de responsabilité qui pourra être mis en cause par les associés si on avait des clauses statutaires, mais à l'égard des tiers, le gérant est tout à fait capable de vendre. Après, la question se pose, et c'est souvent le cas dans la pratique, moi je rencontre beaucoup de clients qui ont des statuts types de société, où on va avoir la gestion de l'actif immobilier, toute opération immobilière, mais on n'a pas de statut suffisamment précis qui nous dise bien oui, vous pouvez céder. Donc là, c'est aussi un jeu d'interprétation. On a une jurisprudence qui n'est pas unanime, qui est plutôt fluctuante. Et on a surtout un arrêt de la Cour de cassation de novembre de l'année dernière, donc tout récent, qui indiquait bien que si dans les statuts, il n'est pas indiqué expressément que dans l'objet social, il est possible de céder le bien, le gérant ne peut pas seul intervenir pour la vente du bien. Il faudra obligatoirement passer par l'autorisation des associés.
Si le gérant, si Franck, ses statuts, on va dire, sont imprécis, qu'il agit quand même de la sorte, c'est quoi le risque pour lui ?
Là, pour le coup, le risque, c'est que, aussi bien, là, si ça ne dépend pas de son objet social, ça veut dire qu'il a engagé sa responsabilité aussi bien à l'égard des tiers qu'à l'égard de ses associés, puisqu'en l'occurrence, il n'avait pas pouvoir de vendre. Donc c'est la nullité de la vente, puisqu'il a accompli un acte qu'il ne pouvait pas accomplir juridiquement de par la rédaction de ses statuts. Donc c'est vrai que là, il est quand même extrêmement important de se poser la question, un peu avant la session ou en tout cas au moment de la constitution de la société, pour savoir quel degré de liberté on veut laisser au gérant. Alors moi, je rencontre souvent le cas de sociétés familiales où c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les parents sont associés, ils vont commencer à transmettre à leurs enfants en nue propriété ou en pleine propriété. Et ils veulent quand même garder la main sur la cession de l'immeuble. Dans ces cas-là, il faut s'assurer que dans mon objet social, il est bien indiqué que l'objet social de la société, c'est aussi la cession de son immeuble. Et donc, de pouvoir se réserver la liberté, en tout cas dans le cadre de ses parents, de pouvoir vendre l'immeuble en tant que gérant, sans passer par l'autorisation des enfants.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane. On a une deuxième question de Sarah.
Oui, Sarah, elle est entrepreneuse. Elle aimerait savoir sur quel support investir la trésorerie excédentaire de sa société.
Alors ça, c'est une question aussi qu'on croise fréquemment, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sociétés qui ont une trésorerie importante. Et donc, d'ailleurs, avant même de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux la placer, je pense qu'il faut se poser la première question, c'est est-ce que j'ai intérêt à la garder dans ma société. On sait qu'avoir une trésorerie excédentaire, alors quelque part c'est très bien pour l'activité et c'est très bien si jamais j'ai des investissements réalisés. À l'inverse, si elle est excédentaire, c'est qu'elle n'est peut-être pas nécessaire à mon activité. Et on le sait que c'est donc une trésorerie qui alourdit aussi le bilan, qui dans le cadre d'une cession peut compliquer les choses. Quel est l'intérêt pour un acquéreur d'aller acheter une entreprise si j'ai beaucoup d'argent dedans, sachant que l'argent, j'en ai pas besoin. Donc c'est aussi la question qu'il faut se poser. Quel intérêt j'ai à garder cette trésorerie dans ma société? On peut avoir intérêt à la sortir, à répartir quelque part un peu cette richesse entre mon patrimoine professionnel et mon patrimoine personnel. Alors évidemment, sortir cette trésorerie, ça implique une distribution de dividendes, une réduction de capital. Alors quelque part, ces schémas-là engendrent une fiscalité. Ça peut être un remboursement de compte courant. Là aussi, ça peut être intéressant parce que pour le coup, on sort cette richesse sans fiscalité. Mais c'est, je dirais, la première question à se poser. Si aujourd'hui, pour Sarah, la question est de se dire « je ne veux pas sortir », pour des raisons qui lui appartiennent, et donc je veux investir cette trésorerie, il va falloir, là aussi, déterminer plusieurs critères. Le premier, c'est, je dirais, son environnement de placement, sa durée de placement, court, moyen, long terme, le degré de risque qu'elle pourrait prendre, sachant que là, il faut être extrêmement vigilant. Dans le cas d'une société d'exploitation, le mandataire social ne peut pas faire prendre de risque à l'argent de la société. Ça n'est pas le sien, c'est l'argent qui appartient à la société. Et donc, en termes de risque, on a des jurisprudences qui sont plutôt sévères, sur des mandataires sociaux qui ont pris des placements qui étaient extrêmement risqués, qui ont tout perdu et où leur responsabilité peut évidemment être engagée. Donc il y a cette notion de risque et puis ce qui découle aussi souvent de l'horizon de placement, c'est la disponibilité qu'on veut donner à cet argent. Donc là, on va avoir plusieurs typologies de placements. On a les comptes à terme, comptes sur livret classiques, on détermine une durée de placement. On va générer des intérêts qui vont être assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans ce cas-là, si ma société est à l'IS. Donc là, c'est un schéma plutôt simple. En termes de risque, c'est plutôt encadré. On va avoir le schéma OPCVM ou compte-titres. Donc là, on rentre en plus dans des considérations qui sont un peu spécifiques. C'est-à-dire que sur des comptes-titres, par exemple, si mon compte-titre réalise une moins-value, à la clôture de mon bilan, je suis en moins-value sur mon compte-titre, il va falloir prendre en compte cette moins-value, provisionner cette perte, et donc ça va impacter mon résultat. Donc il faut aussi mesurer ce que peuvent être les conséquences comptables et fiscales du placement que je peux faire. Là, sur ce type de placement, on aura des dividendes. Mes dividendes subiront l'impôt sur les sociétés, hein, je suis toujours dans l'IS. On a des particularités par rapport à des contrats de capitalisation, c'est-à-dire placement sous forme de contrat de capitalisation pour une personne morale à l'IS, ce qui est tout à fait possible. Et là, on va avoir une... Alors, on est plutôt sur des durées de placement un peu plus longues, pour le coup, même si, comme un contrat de capi personne physique, on peut faire un rachat à tout moment. Là, on va avoir une particularité, c'est-à-dire qu'à chaque fin de bilan, on va prendre en compte un revenu fictif, quelque part, donc je n'aurai pas eu de rachat. On va prendre en compte un revenu fictif qui est égal à 105% du taux moyen d'emprunt d'État. Donc là, on prend ce ratio-là et on va fiscaliser ce revenu qui est certes fictif et on régularise ensuite au moment du rachat sur le contrat si on est en plus ou si on est en moins. Et puis on a la dernière typologie de placement qui est plutôt du long terme, qui va être l'immobilier, où on va pouvoir sous forme de parts de SCPI investir dans la pierre papier, dans l'immobilier. La particularité là, c'est que même si on est à l'IS, mes parts de SCPI, je ne les amortis pas. Je ne suis pas fiscalisé tant que je n'ai pas eu d'opération sur ma SCPI. Si j'ai des revenus qui sont dégagés, si jamais je les ai vendus, je vais être en plus-value ou en revenus qui seront taxés à l'IS. Et puis là, on a une petite particularité pour terminer, c'est que c'est un schéma qu'on croise relativement souvent. Il est possible pour des structures à l'IS d'acheter ce qu'on appelle de l'usufruit temporaire de part de SCPI et donc de ne bénéficier que du revenu, quelque part, avec cette particularité, c'est que, pour le coup, l'usufruit temporaire de part de SCPI, lui, peut être amorti. Donc voilà, on a en tout cas un panel de solutions. Donc il faut effectivement faire le lien avec les critères et puis être vigilant par rapport aux incidences comptables, surtout, et fiscales que peuvent générer ce type de placement.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Absolu, merci à vous pour cette émission, merci Thibault Lamy. Je rappelle que vous êtes chef de service pour le magazine Capital, merci aussi à nos techniciens, Jeff Arbacet, Théo Benoît-Bourg et Nicolas Sanda-Nassami. Et puis on se retrouve bien le mois prochain pour un tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Le Grand Rendez-vous de l'Épargne à retrouver sur Radio Patrimoine et Capital.fr.